Dans ce que demande l'islam à ses fidèles, il y a l'un de ses piliers qui est la prière 5 fois par jour. Comment, en tant que chrétiens, pouvons-nous réagir à ce type de commandement? D'abord, je dirais que ça a un certain intérêt, parce que cela montre ce qu'est la prière, ou tout au moins ce qu'elle n'est pas. En effet, je crois que trop de gens aujourd'hui pensent que la prière, c'est une demande, c'est-à-dire des réclamations. Donc on va demander à Dieu ceci, ceci ou cela. Or, si c'était le cas, il n'y aurait pas besoin de prier 5 fois par jour. Il suffirait de faire un petit paquet avec vos demandes, vous rassemblez tout ça le soir avant de vous coucher, et le lendemain, tout ira bien. Autrement dit, s'il y a quelque chose à demander, je n'ai pas des choses à demander 5 fois par jour, si vous voulez. Et donc ça montre une première chose essentielle, c'est que la prière, ce n'est pas avant tout de réclamer, ce n'est pas avant tout de demander, mais que le sens de la prière, c'est d'essayer de retrouver une connexion avec Dieu, de s'élever vers Dieu, d'inviter Dieu à être présent dans sa vie. Et prier, ce n'est pas, je dirais, comme le fait penser le langage courant, réclamer ou demander. Ce que nous avons tendance à penser, parce que on dit assez facilement, par exemple, « prière d'essuyer vos pieds avant d'entrer », on a l'impression que c'est une demande. En fait, non. Le mot arabe pour dire la prière est beaucoup plus juste que le nôtre, puisqu'en arabe, la prière, ça se dit « salat ». Et « salat », ça veut dire « se connecter ». Se connecter. Et c'est ça, prier, effectivement. C'est essayer de se connecter avec Dieu. Créer un moment de connivence, de relation avec Dieu. Et c'est assez important parce que notre vie a tendance sans cesse à s'éparpiller, à s'éloigner de l'essentiel, à être, je dirais, dévoré par des tas de sentiments divers, des préoccupations qui, dans le fond, sont bien secondaires et bien futiles. Et donc, ce que nous dit l'islam, et je crois que sur ce point il a raison, c'est qu'il faut réapprendre sans cesse à se connecter avec Dieu, à rechercher cette intimité avec le Seigneur pour se remettre en relation directe avec Dieu. Alors pour les protestants, et pour le protestant que je suis, j'ai un certain recul à l'égard d'une règle. Je n'aime pas les règles à appliquer. Je n'aime pas que la religion devienne des commandements à mettre en œuvre, mais ce à quoi je suis attaché, c'est l'état d'esprit. Et je crois que d'ailleurs le Christ a fait sans arrêt ce travail par rapport aux commandements que l'on trouvait dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, les 10 commandements ou même les 613 commandements de toute la tradition juive. Le Christ, à chaque fois, a essayé de dire « mais l'important, ce n'est pas la règle elle-même, c'est en fait l'esprit de la chose, l'esprit qui sous-tend cette règle. Et il faut donc remonter plus en amont, par-delà la règle, et trouver le sens de cette règle. » Et c'est ainsi que, par exemple, dans les 10 commandements, on dit qu'il faut ne rien faire le samedi. Bon, la tradition chrétienne a dit, c'est pas la question que ce soit samedi ou dimanche ou lundi ou vendredi. L'important, c'est de garder à chaque fois un temps pour Dieu. Même une journée pour Dieu, un temps, sera-ce un jour par semaine, une heure par jour, une minute par heure, je ne sais pas. Mais garder un temps où l'on ne travaille pas et où l'on pense à autre chose qu'à son travail. Et c'est vrai pour le reste. Et donc, même tout le sermon sur la montagne de Jésus, au début de Matthieu, c'est de dire il faut remonter au-delà du commandement pour avoir un idéal qui est ce qui donne sens au commandement. Bon, par exemple, Jésus, dans ce sermon sur la montagne, dit vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne mentiras pas quand tu as juré. Et Jésus dit, c'est pas la question d'avoir juré ou pas, l'idéal c'est de ne pas mentir, point. Ensuite, il dit, dans le commandement, il y a écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Et Jésus dit, ce n'est pas la question de faire ou de ne pas faire. Dès que quelqu'un a l'idée de le faire, c'est comme s'il l'avait déjà fait. Et donc, à chaque fois, Jésus remonte au-delà du commandement. Pour revenir à la question de la prière, Si l'on veut savoir ce que pense le Nouveau Testament là-dessus, eh bien c'est assez simple. C'est Paul qui le dit, dans un verset qui est peut-être un des plus importants, mais en tout cas qui est le plus court verset de toute la Bible. Deux mots seulement. 1 Thessaloniciens 5, 7, en grec ça fait deux mots, adialipos prosefkete, et en français trois mots, priez sans cesse. Voilà. Et donc, l'avis chrétien sur la question, c'est prier sans cesse. Vous voyez, prier sans cesse. Cela veut dire de garder un contact permanent avec Dieu. Non pas par une sorte de piété artificielle, mais d'être sans arrêt en contact avec la source même de sa vie, avec ce qui est essentiel dans son existence. Et l'idéal, c'est ça, ce serait de vivre sans cesse en présence de Dieu, parce qu'on a besoin de Dieu pour tout. On a besoin de Dieu quand on est dans la difficulté, parce que là, il est pour nous une source d'aide, de consolation, de soutien. Et même quand on est dans la joie, cette présence de Dieu permet de rendre grâce et transcende cette joie en permettant de la vivre d'un cœur libéré, je dirais sans culpabilité, et en rendant grâce et en pouvant donner un sens à cette joie. De même, quand on fait quelque chose, tout ce que l'on fait en présence de Dieu, ce que je fais, cela peut prendre du sens et être réfléchi, non pas simplement par rapport à mon égoïsme propre, mais par rapport à l'action que je peux faire dans le monde et par rapport aux autres. Donc oui, l'idéal, c'est ce que dit Paul, prier sans cesse. L'idéal, ce serait que je sois sans arrêt dans une sorte d'état de prière, de présence de Dieu, que Dieu soit sans arrêt mon compagnon de voyage, sans arrêt la source de mon énergie, de ma vie, de ma reconnaissance, de tout ce que je suis. Autrement dit, l'idéal, ce serait que je sois sans arrêt dans le monde, comme avec une sorte de perfusion directe, je dirais, du Saint-Esprit, qui fasse de moi un agent du Saint-Esprit. Bon, maintenant, ça n'est pas facile. Et c'est un idéal qui n'est pas forcément atteignable. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'atteins pas. Et donc, il y a évidemment un danger dans ce type de commandement absolu, c'est de se décourager. Et on dit prier sans cesse, ça me semble impossible. Et même si c'était un idéal, même si ça n'est pas un but à atteindre, ce que je crois, parce que sinon ce serait décourageant, même si c'est une direction vers laquelle on doit aller, de se dire je dois le plus souvent possible être en présence de Dieu, la question c'est quel est le chemin ? Quelle est la méthode ? Comment puis-je faire en sorte que j'arrive à faire en sorte que Dieu soit de plus en plus présent dans mes journées, dans ce que je fais ? Et ça, Jésus ne le dit pas. Et la pensée protestante dit qu'il n'y a pas de méthode universelle, que c'est à chacun de trouver sa méthode. Donc voilà, travailler dans la direction de ce que Dieu soit le plus présent possible dans vos vies. Mais ce risque... Il y a un risque présent là-dedans, c'est qu'à force de dire il n'y a pas de méthode, c'est à chacun sa méthode, le risque c'est de n'avoir plus aucune méthode et finalement de ne rien faire. Alors qu'il faut une méthode, et même si elle ne doit pas être imposée par la religion, ce que je crois, il faut que chacun s'impose un rythme, une discipline spirituelle, que chacun se donne lui-même des règles de prière. La prière, ce n'est pas un sentiment inné en disant « je prie quand je le sens, quand je me sens proche de Dieu ». La prière, c'est une discipline spirituelle. C'est une méthode pour essayer de ramener Dieu dans sa vie. Et donc, oui, là-dessus, l'islam a raison, la prière, c'est un commandement. Hein? Paul dit « priez sans cesse » ou « persévérez dans la prière ». Il ne dit pas « priez quand vous en avez envie ». C'est vraiment de l'ordre du commandement et d'une discipline que l'on se donne à soi-même. Alors, donc, certainement, après, je crois que chacun se donne sa propre discipline, mais et ce qu'il faut faire, à quoi il faut faire attention, c'est qu'une règle que l'on donne reste au niveau de la pédagogie. Donc on dit prier 5 fois par jour, c'est une bonne méthode, pourquoi pas, vous pouvez essayer, hein, mais je ne crois pas que ce soit une méthode universelle, et en tout cas il faut faire attention de ne pas confondre le chemin et le but, c'est-à-dire l'accessoire et l'ultime. Et donc prier 5 fois par jour, ou 2, ou 7, ou 30, ou ce que vous voulez, ça peut être une méthode, mais ça n'est pas le but. Parce que sinon, on risquerait de croire qu'il suffit de prier Dieu 5 fois par jour et c'est bien assez. Et je me dirais, pourquoi bien assez? Et je n'ai pas le droit de prier Dieu 7 fois, 8 fois, 10 fois, 100 fois? Eh bien non. L'idée de mettre la limite à 5 me semble très, très insuffisant, en quelque sorte. Et comporte en plus un danger, qui est le danger que Jésus pointe sans arrêt du doigt avec les pharisiens, qui se contentent d'appliquer les règles de la religion et qui du coup se disent « moi je suis un très bon pratiquant et j'ai des tas de mérites parce que j'accomplis les règles ». Mais prier 5 fois par jour, si entre-temps vous faites des vacheries à tous vos prochains, ça ne convient pas. C'est pas d'être bien 5 fois par jour et mauvais le reste du temps qui donne du sens à sa vie. Évidemment, ça on le comprend bien. Il faut que... Le but, c'est bien que cette prière puisse nous inviter à finalement à penser à Dieu tout le temps, c'est-à-dire que ces 5 fois élèvent toute la vie vers Dieu. Et je dirais que là, la méthode proposée par l'islam, qui n'est pas une mauvaise méthode donc, c'est ce que j'appellerais la méthode du rideau. Voilà. C'est-à-dire si on considère que notre vie est comme un rideau qui est écrasé par terre. On veut lever ce rideau pour qu'il traîne au-dessus de la poussière, si vous voulez, qu'il soit en l'air et qu'il soit comme quelque chose qui soit au-dessus des bas-fonds de la ténèbre. Eh bien, pour élever le rideau, il y a plusieurs méthodes. La méthode de l'islam, c'est la méthode, je dirais, du rideau, c'est-à-dire qu'on va accrocher le rideau sur un certain nombre d'anneaux. Alors là, on prend 5 anneaux, on accroche 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, le rideau pend un peu entre chaque anneau, mais globalement, le rideau est élevé vers le haut. Voilà. C'est une façon de faire. La méthode protestante, elle est différente. Elle dit, il ne faut pas accrocher le rideau à quelques anneaux, c'est tout le rideau qu'il faut lever. Voilà. Dans son ensemble. Et c'est pourquoi les réformateurs, plutôt que de dire prier 5 fois, 10 fois, 3 fois, 5 fois, je ne sais quoi, ils disent il faut que toute la vie soit montée vers Dieu. Et donc, plutôt que d'imposer des prières dans la journée ou des pratiques en disant la semaine, faites ce que vous voulez, mais une fois par semaine, allez à la messe. Ils disent il faut que toute la vie, chaque jour, chaque heure, soit élevée vers Dieu. Et ça a été la grande idée de la réforme, de dire il faut que chaque fois que vous faites quelque chose, que ce soit pour votre travail, pour votre famille, pour n'importe quoi, faites-le pour la gloire de Dieu. Et donc de transformer chaque acte profane en acte religieux, c'est astucieux. Et donc plutôt que de rajouter des points fixes, si vous voulez, dans la vie, de mettre des points religieux, d'actes religieux dans une vie profane, de religiosiser, j'invente le mot, toute la vie et chaque geste, avec ce verset qui est très cher aux protestants, « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu ». Et je me souviens que ce verset qui est cher aux protestants, j'avais une paroissienne qui avait dans sa maison des tas de versets bibliques accrochés sur des petits panneaux, comme ça se faisait autrefois. Et alors, pour qu'on ne s'habitue pas à ça, elle faisait tourner les panneaux, et donc sur les différents clous de la maison. Et une fois, tout le monde s'était amusé, parce qu'il y avait un des panneaux qui était dans les toilettes, et il y avait écrit là, tout à coup, « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Alors, évidemment, on trouvait ça blasphématoire, mais dans le fond, je pense que c'est le comble juste de la pensée réformée et protestante. Et oui, pourquoi est-ce que je ne rendrai même pas grâce à Dieu dans les toilettes, c'est-à-dire jusqu'aux choses les plus basses, que prétendues les plus basses de ma vie, je peux en faire une prière à Dieu. Et du coup, il n'y a pas de moment où je suis en dehors de Dieu. Donc là, je prie, je suis bien, et ensuite, je fais autre chose et je m'en éloigne. Non, que chaque chose, chaque geste, chaque action soit offerte à Dieu comme une prière, ce qui fait que Je n'ajoute pas dans une vie quelconque des temps de prière, mais c'est toute la vie qui devient une prière. Ça, c'est beau, mais est-ce que vraiment on y arrive ? Idéalement, c'est bien, mais est-ce que vraiment on y arrive ? Et est-ce que finalement le danger, c'est pas, en fin de compte, quand on dit « oui, oui, mais moi je pense à Dieu dans chaque chose », c'est finalement de ne jamais y penser. Et donc peut-être est-il bon de repenser au rideau et de dire déjà « assurez le minimum pour commencer ». Et au moins 5 fois par jour, accrochez votre rideau à Dieu pour faire en sorte que votre vie ne s'effondre pas dans la poussière, que votre vie ne s'écroule pas dans le matérialisme, que votre vie ne soit pas comme un vieux rideau chiffonné par terre, piétiné par les événements, piétiné par les épreuves, par toutes les contrariétés de l'existence, que votre vie ne soit pas une chose poussiéreuse qui traîne dans la boue, mais qu'elle soit relevée à quelque chose, vers la lumière, vers la pureté, vers la beauté, vers l'espérance, vers la joie, vers la confiance et vers l'esprit. Alors peut-être que, comme beaucoup de chrétiens, et j'avoue d'ailleurs comme j'ai tendance à le faire, vous priez une fois par jour. Bon, c'est pas beaucoup entre nous, hein. Mais c'est déjà pas mal, vous prenez votre rideau et vous l'accrochez à un clou, un seul clou. C'est mieux que rien. Mais enfin, parce qu'au moins il ne traîne pas par terre. Mais avouez qu'une seule prière par jour, c'est comme un rideau accroché à un seul clou, il ne traîne pas par terre, mais c'est quand même pas très très bien. Et donc oui, 5 clous, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, effectivement, je pense que ça, c'est une chose importante. Parce que la prière, ce peut être ça, mais ce peut être aussi autre chose. Ce n'est pas simplement de l'élever, d'élever sa vie à Dieu pour la sortir du sol. C'est aussi un moment d'intimité avec Dieu. Un moment d'intimité avec Dieu. Le but de la vie, c'est ce que dit le psaume 27. Il dit, il y a une chose que je désire, la seule que je désire vraiment, dit-il, c'est habiter la maison de l'Éternel pour la durée de chaque jour. C'est-à-dire être toujours dans cette espèce d'intimité avec Dieu. Et là encore, c'est l'idéal, le but, de vivre dans une intimité avec Dieu. Que Dieu soit une sorte de compagnon, je dirais amoureux, qui nous accompagne et qui nous donne tout ce dont nous avons besoin à tout moment de la journée. Et quand on est amoureux, on ne partage pas que les mauvais moments, comme les chrétiens qui ne prient Dieu que quand ça va mal. Quand on est amoureux, on partage tout avec son amoureux. Les bons, les mauvais moments, les moments même triviaux et tout ça, c'est ça l'intimité avec Dieu. Alors me direz-vous, oui, ça c'est l'idéal, et une fois de plus, quelle est la méthode ? Comment arriver à avoir cette intimité permanente avec Dieu ? Eh bien ça, souvenez-vous, quand vous étiez jeune, ou si vous l'êtes encore, comment vous faites quand vous souhaitez gagner l'affection, l'amour, l'intimité d'une personne ? Eh bien c'est simple, on fixe des rendez-vous, on se donne des moments où on rencontre l'autre. Si l'autre, on ne la rencontre jamais, on n'arrivera pas à être intime. Et donc, on se fixe des rendez-vous. Et plus ces rendez-vous sont réguliers, plus ils sont suivis, et plus progressivement, on va progresser dans l'intimité. Et donc, c'est ça, c'est prière aussi. C'est de fixer avec Dieu des temps de rendez-vous. Voilà. Alors, c'est parfois un peu artificiel, hein. Et comme les amoureux, parfois, quand vous que débutez, vous êtes très gêné, vous ne savez pas quoi dire, et il n'y a pas une grande intimité dans les premiers rendez-vous. Et on est embêté, mais on est présent. Et renouveler ces rendez-vous le plus souvent possible, le plus régulièrement possible. Parce que c'est comme ça que l'on peut s'habituer à la présence de l'autre et que l'on peut se connecter à l'autre. Souvenez-vous, cette tradition arabe qui est très juste là-dedans, prier, salat, ça veut dire se connecter. Et donc, il faut apprendre à prier de la façon suivante. Comme les amoureux, se donner rendez-vous avec Dieu. Alors après, qu'est-ce que vous direz ? J'en sais rien. Quand vous rencontrez votre amoureux ou votre amoureuse, vous ne vous demandez pas, bon, il faut que je lui réclame ci, que je lui réclame ça, que je lui demande ci. On n'est pas dans la demande. on est dans le rendez-vous amoureux. Voilà. Et si vous ne savez pas que dire, eh bien, ça n'est pas grave. Parce que Paul lui-même nous dit dans l'Épître aux Romains, nous ne savons pas que demander dans nos prières. Vous voyez, il n'y a pas que vous, hein. Il dit, mais ça n'est pas grave parce que l'Esprit intercède pour notre esprit par des soupirs inexprimables. Voilà. Et donc, peu importe ce que vous dites, l'important, c'est de se connecter. Et puis, me direz-vous, pourquoi 5 fois? Pourquoi pas 7, comme les moines chrétiens qui prient 7 fois par jour? Parce que, psaume 119, verset 164, 7 fois par jour, je te loue. Bon, c'est un fondamentalisme imbécile, mais pourquoi pas? Eh bien, cette idée de 5, je vous disais pourquoi pas 5, parce que bon, ça rentre dans une journée, mais dans le fond, il y a là aussi une intuition qui me semble assez juste, c'est que de proposer de vivre plus particulièrement chaque moment de la journée avec Dieu et d'apprendre à partager chacun des moments importants de la journée avec Dieu en attendant de partager tous les autres. Effectivement, 5 fois, ça fait déjà au lever. Très bonne idée, ça. Au lever. Quand je me lève, ah oui, tiens, Dieu. Et j'offre ma journée à Dieu. On dit que dans la vieille tradition protestante, les protestants se levant, la première chose qu'ils disaient avant même de poser le pied par terre de leur lit, disaient « Voici le serviteur de l'Éternel ». C'est-à-dire « Je suis là pour ton service ». Merveilleux ! Je me lève, j'offre ma journée à Dieu et je commence ma journée avec lui. Ensuite, la deuxième fois, ce serait à midi, mettons, manger. Et quand je mange, de rendre grâce et de vivre ce repas comme un moment de communion. Communion avec ceux avec qui je partage le repas. C'est très important de partager le repas avec quelqu'un, avec sa famille, son mari, sa femme, ses enfants ou ses collègues, je ne sais, de partager la communion. Et c'est ce que nous célébrons là, mais ça c'est un rite désincarné, décharné, c'est un squelette de quelque chose. Les premiers chrétiens, quand ils faisaient une communion, ils faisaient un vrai repas, une bonne bouffe avec leurs amis, leurs frères, et ils disaient ensemble, nous communions et nous rendons grâce au Seigneur. Voilà. Et bien que ce repas soit une façon de rendre grâce. Et si chaque repas que vous faites, vous le vivez comme une eucharistie, comme une communion, vous ne communierez pas simplement une fois ou deux fois par mois, mais vous communierez 3 fois par jour. Quelle merveille, sans aller à l'église. Extraordinaire. Que Dieu soit présent dans ses relations avec ses intimes. Et puis, le troisième fois, ce serait quoi? Ce serait dans le moment du travail. Quand je travaille, eh bien, je travaille pour Dieu, que mon travail soit offert à Dieu. J'en ai parlé dans cette grande tradition protestante. Tout ce que je le fais non pas comme pour les hommes ou pour enrichir ma société de pétrole ou je ne sais quoi, mais je le fais comme pour Dieu. Soli Deo Gloria, pour la seule gloire de Dieu. Ensuite, la quatrième fois, c'est quand je rentre à la maison. Et quand je rentre chez moi, que je retrouve ma famille, qu'on retrouve les siens, eh bien de pouvoir vivre ce retour chez soi avec Dieu encore. Avec Dieu pour savoir aimer, pour savoir pardonner, savoir accompagner, savoir écouter, savoir comprendre l'autre. Et là, Dieu sait si j'ai besoin de lui pour faire tout cela. Et heureux suis-je si je peux apprendre à gérer tout ce retour chez moi et que mon foyer lui-même soit, inspiré de cette présence du Saint-Esprit. Et puis enfin, le cinquième, le soir, quand je me couche, de se remettre à Dieu pour la nuit, de rendre grâce pour la journée, de s'abandonner à la présence bienfaisante et bienveillante de Dieu et se préparer au lendemain avec ses espoirs, ses craintes et toutes choses, mais de s'endormir dans la confiance. Et là, je trouve qu'il y a, une fois de plus, dans ce commandement un peu rigide, une intuition absolument merveilleuse, que chaque moment de sa vie soit vécu avec Dieu. Et ça, on ne peut pas le faire une fois par jour. Je ne peux pas rassembler toutes les prières le soir en disant « Bon, alors, il est 23 heures, ah oui, alors, je me lève, merci, je mange. » Non. On ne peut pas rassembler ces prières une fois par jour, ça n'est pas possible. Et ça, c'est peut-être l'erreur fondamentale de l'islam sur ce point. C'est qu'elle dit « Bon, c'est la prière 5 fois par jour, mais si vous avez trop de boulot à midi, vous pouvez regrouper les prières le soir. » Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est pas bon du tout. On ne peut pas regrouper les prières le soir. Et on ne peut pas faire le soir la prière du matin. Ça n'a aucun sens. Et à la limite, simplement que la prière soit courte. Simplement une pensée, un éclair, une connexion, quelque chose. Et un trait d'esprit. Ça n'est pas la peine de se mettre en position en ceci, en cela. Mais plutôt que de regrouper, conserver ces moments essentiels pour remettre à Dieu chaque moment. Et chaque moment, là, effectivement, je garderai aussi cette tradition islamique, quelque chose de merveilleux. Et vous savez que les musulmans, chaque prière, ce qu'ils disent, c'est le premier verset du Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est-à-dire, au nom de Dieu, le miséricordieux de toutes les miséricordes. C'est-à-dire, au nom de Dieu, Dieu d'amour, le Dieu de tous les amours. Ça, c'est extraordinaire. Et ça, j'avoue que, si vous voulez, c'est comme tout, il y a les religions telles qu'elles sont et ce que les gens en font. Mais par contre, là, je garde les choses comme elles sont et de 5 fois par jour, ou pourquoi pas plus, se rappeler que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, de tendresse, de pitié et de pardon, et se remettre dans cette présence de l'amour de Dieu et de sa miséricorde est la plus grande des choses que nous puissions faire dans la prière. Alors maintenant me direz-vous, mais pourquoi, après tout, chercher cette connexion, cette présence avec Dieu? Eh bien, je vais vous dire, parce que je crois que c'est absolument essentiel même pour notre vie. Parce que cette connexion avec Dieu, c'est d'abord trouver en Dieu la force, se remplir de sa force. Je crois qu'il y a en Dieu une source d'énergie extraordinaire, si vous voulez. Une source d'énergie, une source de paix, de confiance, de pardon, de liberté. Et prier Dieu, c'est comme une voiture qui va à la station d'essence, si vous voulez. Je vais vers Dieu et je me remplis de l'énergie dont j'ai besoin, de la source vitale dont j'ai besoin, du dynamisme dont j'ai besoin pour vivre, pour aimer, pour agir, pour faire des choses. Et donc c'est ça, 5 fois par jour, reconnectez-vous comme vous rebranchez votre téléphone sur sa base pour qu'il ait de l'énergie. C'est ça la prière. La deuxième chose, c'est cette connexion avec Dieu, c'est de se laisser transformer par lui. Parce que je crois que Dieu est aussi une puissance de transformation. Et prier, c'est simplement s'exposer à Dieu et le laisser faire. Le laisser faire. Comme quelqu'un s'expose au soleil, comme on met une plante au soleil parce qu'il fait beau et elle ouvre les pétales de ses fleurs. C'est s'exposer à lui, sans rien demander, sans rien dire, s'exposer à lui. Et exposer aussi toute sa vie. Pour qu'il la transforme, parce que Dieu transforme, Dieu c'est un transformateur. Il a transformé tout le monde entier, le cosmos, il part d'une énergie indistincte et il l'a transformé dans les merveilles que vous êtes. Et donc laissez-vous transformer par lui, s'exposer à lui, et exposer à Dieu toute sa vie, sa foi, ses doutes, ses questions, ses craintes, ses espoirs, ses désirs même. Et Dieu, eh bien, il transforme tout ça. Il transfigure tout ça dans quelque chose de positif. Le troisième point, c'est important dans la prière, c'est de s'élever au-dessus des pâquerettes, s'élever au-dessus du monde, au-dessus du matérialisme qui nous menace et qui nous agresse, s'élever au-dessus de tout ce qui nous tire vers le bas pour nous écraser dans le fond et nous piétiner. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec ce rideau qu'il fallait relever. Je crois qu'effectivement, les événements de notre vie n'arrêtent pas de vouloir nous piétiner, nous écraser, nous réduire à néant. et l'agressivité du monde nous piétine, nous écrase et nous réduit à néant. Et les épreuves, les mauvaises nouvelles qu'on nous donne nous piétinent, nous écrasent et nous réduisent à néant. Et la prière, c'est ça, c'est s'élever au-dessus de la mêlée, s'élever au-dessus de tout ce qui peut nous arriver dans ce monde terrestre, prendre du recul, de la distance, d'une certaine manière, oui, du détachement, et être au-dessus de tout ça, je dirais, dans les sphères supérieures où ne règne que la lumière et la tranquillité. C'est ça la prière, et c'est absolument essentiel. Et puis enfin, je dirais que prier Dieu, c'est aussi se décentrer pour se recentrer sur Dieu. Parce que nous avons tendance, et ça aussi c'est mortifère, à progressivement nous considérer comme le centre du monde, comme la chose la plus importante. Ce qui arrive aux autres, je m'en fiche un peu, ce qui m'arrive à moi, je ne m'en fiche pas du tout. Eh bien, la prière, c'est se décentrer et redire ce qui est le centre, ça n'est pas moi, c'est du plus important que moi. Ce qui est important, c'est Dieu. C'est-à-dire que je ne suis prié, c'est se rappeler que je ne suis pas grand-chose, en fait, par rapport au monde, que je suis petit. Et finalement, ce qui m'arrive, c'est peut-être pas le plus important du monde. Parce que l'important, c'est pas ce qui m'arrive moi. Je vieillis, je tombe malade, je suis heureux, malheureux, je ris, je pleure. Qu'est-ce que ça fait au monde, à l'éternité? Et se rappeler qu'il y a, au-delà de moi-même, plus important que moi, il y a de l'essentiel. Et que c'est de s'accrocher à ce qui est l'essentiel et qui en plus est inatteignable, absolu, incorruptible et qui ne peut souffrir de rien ni mourir. Et la prière, c'est ça. C'est donc sans arrêt se rappeler qu'on n'est pas le centre du monde, mais qu'il y a plus important que nous. Et c'est en fait éviter le danger pointé du doigt par la théologie chrétienne depuis des millénaires, qui est le péché originel. Le péché originel, c'est ça, c'est croire que ce qui nous arrive est important alors que ça n'est pas. Et ce péché originel de se mettre au centre du jardin a pour conséquence la souffrance, l'enfantement difficile, le travail pénible, enfin tout ce qui est indiqué dans la Genèse. Et donc ce savoir soi-même relatif, ce savoir sans grande importance, se rappeler que les autres aussi, tiens, existent et qu'ils sont au moins aussi importants que moi, c'est le secret de tout. Et c'est mille fois dans l'Évangile, comme le serviteur inutile ou d'autres choses encore. Donc vous voyez que la prière, ce n'est pas une liste de réclamations, c'est une attitude, c'est un positionnement de son moi, dirais-je, par rapport à Dieu, par rapport à l'universel, par rapport au monde, par rapport aux autres, par rapport à l'absolu. Prier, c'est une façon d'insérer son moi, sa propre personne, dans le monde ou par rapport au cosmos en général. C'est une façon d'apprendre à vivre le présent dans sa temporalité, dans un certain rapport à l'éternité. C'est une manière de se remettre en perspective par rapport à ce qui est plus important que moi. Alors certes, il y a des perversions possibles de la prière. Ceux qui utilisent la prière pour renforcer leur moi, leur désir de toute puissance, en disant « je prie Dieu qui me donnera tout ce que je veux », ça c'est dramatique ça. Ça c'est la prière névrotique. Allez voir un psy si ça vous arrive. La prière, ça n'est pas ça. La prière, c'est pas Dieu qui est à mon service, c'est au contraire se mettre soi-même au service d'autre chose et s'ouvrir sur une fenêtre qui m'emmène vers l'infini, vers l'éternité, vers l'amour et le pardon. Et la prière vue comme ça, c'est le meilleur antidote, à l'égocentrisme, à l'égoïsme, à ce péché originel, source de tout mal, pour soi et pour les autres. Et prier, c'est donc se décentrer pour accueillir l'autre, accueillir ce qui est différent de moi, pour trouver une source de vie, une source de joie, de paix, de force, pour agir et pour transmettre au monde tous ses dons. Alors ça, il faut le faire non pas 5 fois par jour, mais 50 fois par jour, 500 fois par jour. Tiens, d'ailleurs, j'ai lu ça, il paraît que Mahomet, le prophète de l'islam, a dit, au départ, le commandement, c'était pas prier 5 fois par jour, c'était prier 500 fois par jour. Il a dit ça, il a raison. Il a dit, bon, en attendant, vous commencerez par 5. 500 fois par jour, il a raison. Et donc priez sans cesse, comme dit Paul, et en attendant, ne faites pas moins que 5 fois par jour. Amen.